Une carte blanche recalée à trois reprises par Bernard Henbert, lu par Jean-Marie Chazot. Un certain populisme revendique que les subsides culturels soient décidés en fonction des prétendus goûts de la population. Pour ce faire, sont pris en référence par ce courant de pensée parfois au pouvoir le nombre d'entrées ou d'achats. Cette thématique prend une ampleur toute particulière un peu avant et surtout dès le début du deuxième mandat du président Donald Trump. Ceux qui prônent pareille évolution vont se retrouver devant la quasi-impossibilité de concrétiser sérieusement pareille option, car ils n'indiquent jamais comment contrer les innombrables manipulations orchestrées bien souvent en coulisses pour maximaliser les chiffres dans les présentations publiques de ces résultats par une industrie culturelle qui cultive la volonté de conquérir les meilleures médiatisations. D'autre part, ce courant de pensée et d'action ne prononce jamais le mot « calimat ». Voici deux exemples parmi tant d'autres. Dans une Argentine dirigée par Javier Milei, le secteur du cinéma est actuellement soumis à pareille politique. Dans Libération du 23 mars 2025, F. Beauvallet l'indique ainsi. Les aides sont désormais attribuées en bout de chaîne, une fois que le film a prouvé sa rentabilité en salle. Début 2025, en Belgique, le MR organise, notamment grâce à de nombreuses déclarations de son président, une campagne complètement inédite jusqu'alors contre le financement public de la culture et l'existence même d'une ministre et d'un ministère de la culture. Le 9 mars 2025, La Libre publie également une tribune de Yacine Rafix, présentée comme le porte-parole du MR à Bruxelles. Laisser la culture s'autoréguler n'est pas une menace, c'est une nécessité, car si personne ne veut d'un spectacle, d'un film ou d'une exposition, pourquoi forcer son existence à coup de subventions publiques ? Là où le marché exige de convaincre son public, la culture subventionnée vit dans un entre-soi confortable où l'on se félicite mutuellement d'être financé par l'État plutôt que d'être acclamé par le public. Doit être entendu le choix du public, ce qu'il paie, ce qu'il aime et ou les deux de façon complémentaire, mais il ne constitue certainement pas l'unique critère à prendre en considération. N'oublions pas que lorsque la profession décerne ses palmes, il est assez souvent prévu un prix du public. Enfin, il faut absolument faire la différence, me semble-t-il, entre le choix du public et le choix de l'industrie culturelle. Recalé à trois reprises. Les réactions du monde culturel à ce positionnement radical de différentes personnalités du Parti libéral sont heureusement fort nombreuses. À titre personnel, j'écris également ma tribune, le 12 mars 2025. Je pense y proposer des arguments différents de ceux que je lis ici et là, et avec deux propositions concrètes d'évolution. Donc, j'espère éviter de faire double emploi, mais peut-être que je m'illusionne. Il me semble intéressant de proposer aux lecteurs de La Symptomatique ce texte, en leur signalant que je l'ai envoyé progressivement à trois rédactions de grands groupes de presse différents, refus après refus. Car si nous pouvons tous découvrir les cartes blanches quand la presse les publie, il ne nous est jamais montré celle qui accuse ainsi plusieurs refus. C'est, pour moi, une façon un peu inédite de faire de l'éducation aux médias pour les adultes que vous êtes. Lorsqu'une de mes tribunes est publiée, j'en fais la promotion sur les réseaux sociaux. Je ne vois pas pourquoi je n'agirais pas de même si un texte n'est pas accepté, et d'autant plus s'il s'avère que c'est un même choix de la part de plusieurs médias. Aux différentes rédactions contactées, j'avais ainsi défendu ma cause dans une courte lettre introductive. Voici ma tribune. Pouvez-vous m'indiquer si elle intéresse votre rédaction ? Le débat actuel sur comment attribuer les subsides culturels est passionnant et passionné. Cependant, il manque une voix, celle du public, acteur principal puisque c'est pour lui que les activités culturelles se façonnent. Certains veulent que ce soit le chiffrage de la consommation du public qui dicte en bonne partie l'octroi des subsides. Je me suis efforcé de ne reprendre aucun élément de ce qui se publie actuellement ici ou là. Et j'espère que ce qui suit va introduire d'autres façons de respecter les créateurs et le public. Bien cordialement. Peut-être qu'il ne fallait pas proposer ce texte aux lecteurs de notre presse écrite. Chacun se fera son jugement. Je ne vais surtout pas me plaindre en dénonçant une censure ou une atteinte à la liberté d'expression. En vertu justement de cette dernière, respectons les choix éditoriaux des médias, et même s'ils ne nous donnent pas la parole. C'est leur choix. Leur politique éditoriale. Par contre, celle-ci mérite d'être analysée par chacun. Et découvrons aussi un peu les coulisses en ayant l'occasion de découvrir ce qui ne se publie pas. Ma tribune. Son titre, si le public décernait les subsides culturels. Son texte. Ceux qui voudraient que les subsides soient attribués en fonction des ventes au public des produits culturels semblent ne pas connaître ou cachent nombre de façons peu reluisantes dont pareils résultats sont obtenus. Musique. Aujourd'hui, le disque d'or, né en 1942 avec le titre Chattanooga Choo Choo de Glenn Miller, n'a pas pris une ride, avec l'album Multitude de Stromae ou tant de succès de rappeurs. On nous fait croire que ce trophée récompense les achats du public. Ce n'est pas possible puisque la parution de Libération du 10 octobre 1988 coïncida avec la sortie, le même jour, chez les disquaires, de l'album Rattle and Hum de U2. Et pourtant, une publicité qui occupait toute la dernière page de ce quotidien indiqua que cet enregistrement est déjà disque d'or. Il s'agit en fait de la vente aux disquaires, les commandes. Autre exemple, au fil des années. Dans Télémoustique du 26 juillet 2000, Jean-Luc Cambier note que l'album In Blue du groupe irlandais The Corrs est disque d'or en Belgique avant même sa mise en magasin. Mais alors serait-ce vraiment le choix des disquaires, ce qui serait pas mal puisqu'ils sont censés connaître et donc relayer les goûts de leur clientèle ? Pas vraiment, car la firme peut accepter des retours d'invendus pour les artistes qu'elle souhaite promouvoir dans les charts, et pas ceux d'autres enregistrements qui visent des publics peut-être plus restreints. Ainsi, en 2003, Jean-Noël Reinhardt, le président directeur de Virgin Stores, expliquait que des majors imposaient parfois des quantités énormes de disques pour être massivement visibles dans son commerce, mais elles pouvaient se tromper quant à l'importance des ventes sur la durée, ce qui engendrait d'importants retours. En 1991, paraît l'album On Every Street de Dire Straits. Un vendeur d'une chaîne de magasins établie en Belgique m'explique. Je suis alors invité au resto par deux commerciaux. Il s'agit de discuter de la précommande du CD. On se met d'accord sur le chiffre, insensé, de 2000 pièces, avec une première livraison de 500 unités, suivie par des tranches de 250. Quel était l'enjeu d'une telle commande ? Tout simplement, la première place dans le hit parade officiel. Fin de l'histoire, les 2000 CD ne sont jamais arrivés en magasin, mais le disque a été premier du classement. La récompense d'or omniprésente ne constitue donc pas, dans de nombreux cas, le choix du public, mais bien celui de l'industrie musicale. Si pareil résultat influençait l'attribution de subsides, ce serait une prime pour nombre de chiffres fallacieux qu'il conviendrait au contraire de combattre. Livre, film, musée. La confusion entre le nombre de certains livres fournis aux libraires de l'ex-président Sarkozy et le chiffre faramineux publié des exemplaires soi-disant réellement vendus a facilité à cet auteur une présence médiatique des plus importantes, entraînant probablement dans un second temps un développement de ses ventes effectives, mais d'une façon déloyale par rapport à d'autres auteurs non promus par pareil stratagème. Certains distributeurs de films multiplient des avant-premières et reprennent ces chiffres de fréquentation dans ceux de la première semaine de commercialisation officielle, ce qui permet parfois ainsi d'atteindre une place en vue dans le classement des sorties de la semaine. Et lorsqu'on donne la parole au public, la cérémonie des Magritte a arrêté de décerner son seul trophée résultant du vote du public, le Magritte du premier film, après l'édition de 2015 où il lui fut reproché que les votes d'un grand nombre de professionnels auraient concurrencé ceux de vrais spectateurs. Le reportage « L'étrange affaire du faux Magritte » d'Alain Vassen, qui détailla notamment ce problème, fut diffusé dans le magazine Investigation de la RTBF. Il sera le sujet d'une plainte de trois associations professionnelles majeures du milieu du cinéma auprès du Conseil de déontologie journalistique. Le 23 février 2022, celui-ci décida qu'étaient non fondés les 36 griefs invoqués auprès de lui. En France, un rapport de la Cour des comptes explique comment le château de Versailles, qui revendique plus de 8 millions de visiteurs en 2023, jouait avec les mots car il s'agit plutôt de visites. En effet, 4 visites de diverses zones de cet établissement public peuvent se cumuler en un jour par un seul et même visiteur, et d'autant plus s'il vient de loin et qu'il ne visitera ce monument qu'une fois dans sa vie. Favoriser la confusion du public, voire des médias entre visiteurs et visites, permet de tromper énormément. Une indiscrétion m'a même permis de découvrir qu'un de nos musées belges comptabilisait 2 entrées pour un visiteur s'il lui louait un audioguide. Pourquoi pas plutôt un calimat ? Tant de petits trafics de résultats sont encouragés par la notoriété quand celle-ci s'attribue plutôt par les chiffres de fréquentation que par la satisfaction affichée par chaque usager à la fin de sa consommation. Dans l'octroi de ces aides, le ministère devrait prendre en considération le Calimat, combien de personnes ont aimé le produit ou le service découvert, plutôt que l'audimat, on sait combien de personnes sont venues à tel spectacle, mais pas si elles l'ont apprécié. Mais même lorsque cette autre façon de dresser un bilan existe, c'est hélas le plus souvent dans une extrême discrétion. Ainsi, le contrat de gestion de la RTBF l'oblige à réaliser régulièrement un Calimat depuis nombre d'années. Mais ce service public n'en communique bien rarement les résultats au public, et uniquement lorsqu'ils sont positifs, à l'inverse de ceux du CIM, Audimat. La solution ? Des panels citoyens. Ceux qui veulent que les subsides culturels soient absolument décernés en fonction des goûts du public vont donc se retrouver devant la quasi-impossibilité de chiffrer ceci réellement, honnêtement. Il existe pourtant une solution qui fait appel au public. Dans le reste de la vie sociale, politique ou économique, depuis une vingtaine d'années déjà, se mettent en place en Belgique des panels citoyens avec des résultats constructifs. Des personnes sont tirées au sort et, avant qu'il ne leur soit demandé de préparer ou de participer aux décisions, elles sont informées par des experts de bords différents sur les enjeux du secteur où elles vont agir. Cette formation est indispensable pour que ces personnes puissent prendre une distance par rapport à ces chiffres trompeurs qui ont baigné leur existence, mais aussi découvrir les enjeux économiques pour que se développe une création de chez nous, etc. N'est-il pas étonnant que des matières dites à supplément d'âme, comme la culture ou les médias, semblent ignorer complètement cette invention démocratique ? Pourtant, le conseil d'administration d'une RTBF, grâce à quelques citoyens ainsi sélectionnés et formés, pourrait sans doute être un peu moins sous l'influence de tel ou tel parti politique.